Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir, c'est bien cela dans Variation, le dernier vendredi du mois. Guy Le Polarski au micro. Vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouche, qui est avec nous au micro, au téléphone plutôt, depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Eh bien, bonjour Guy, bonjour Bernard, bonjour à tous.
Et merci Hervé d'être fidèle à notre rendez-vous. Alors, dernier numéro de Variation en noir, masqué en noir derrière nos micros, Hervé, n'est-ce pas? Pour cette dernier numéro pour cette année 2020, année particulièrement particulière, avant de basculer dans l'année 2021 avec des vœux de bonne année et de bonne santé qui risquent de prendre une dimension plus invocatoire que jamais. Alors, avec Hervé, je pense que tu seras d'accord, nous nous limiterons à souhaiter à nos auditrices et auditeurs de bonnes lectures et pourquoi pas en noir. Et il y aura de quoi faire. Alors, à commencer par ce recueil de nouvelles, Bandits et Brigands, aux éditions L'Échappée, pour nous rappeler que le Père Noël n'est parfois pas celui qui est guetté par les enfants le 25 décembre. En parlant de Père Noël, une petite idée de cadeau de fin d'année avec le dictionnaire amoureux du polar de Pierre Lemaître aux éditions Plomb. Et pour terminer, nous nous arrêterons sur le dernier livre d'une auteure, Jax Miller, dont nous avions particulièrement apprécié le premier roman, Les Infâmes, et qui signe aujourd'hui Les Lumières de l'Aube, et c'est aussi aux éditions Plomb. Hervé, Bandits et Brigands, aux éditions L'Échappée, huit nouvelles consacrées à huit brigands au grand cœur, nous dirons cela comme ça. Mais avant d'évoquer ces huit nouvelles, un mot Hervé sur les éditions L'Échappée qui sont portées par deux libraires, me semble-t-il.
Oui, les éditions L'Échappée, c'est Jacques Beaujard et Cédric Biagini. Et c'est une maison d'édition qui notamment s'attache à la mémoire sociale révolutionnaire qui a fait des histoires aussi bien qui a confié à des historiens, des sociologues, et autres, aussi bien une histoire des Black Panthers, des Diggers de Californie, de la fraction armée rouge, voilà. Mais il y a aux éditions L'Échappée, il y a d'autres parutions évidemment, il y a aussi des beaux livres, mais il y a aussi, comme Scottsboro, Alabama, sur un procès fait à des Noirs accusés à tort d'avoir violé des femmes, enfin voilà, dans les années 30 aux États-Unis, mais il y a aussi une collection donc qui s'appelle L'Homme Tempête, qui est celle qui nous intéresse avec ce recueil de nouvelles, et qui avait commencé, qui s'était ouverte sur un texte de Panayit Istrati, Présentation des Haïdouks. Haïdouk qui déjà annonçait un intérêt pour les bandits sociaux, les bandits d'honneur, voilà. Et ce qui est pas non plus étonnant, c'est qu'un de parmi les rééditions de samedi soir, dimanche matin de Alan Silito ou de livres de Jacques Yonnet, c'est que L'Échappée, il y a quelques années de ça, avait réédité Ringo Levio de Emmett Grogan, qui était l'autobiographie romanesque, mais sans temps mort, d'un cambrioleur américain de 15 ans, né à Brooklyn, parti rejoindre l'Europe, Dublin, les rangs de l'armée républicaine irlandaise, puis revenu aux USA, où en pleine période hippie, où il avait cofondé justement le groupe subversif et d'agitation des Diggers, et voilà, livre autour duquel on avait organisé une rencontre il y a quelques années au salon du livre de critique sociale d'Arras, si mes souvenirs sont bons.
Tout à fait, je pense que nous étions au sous-sol de...
D'une librairie.
Voilà, de la librairie de BD d'Arras.
Absolument. Et donc, c'est peut-être... ça n'est pas très très étonnant de cet intérêt de nos deux éditeurs pour les bandits sociaux, les brigands d'honneur. Peut-être faudrait dire quelques mots du cheminement,
oui,
et puis de la référence à
Eric
Hobsbawm.
Oui, oui, on peut dire que en fin de compte, ce recueil de nouvelles s'inscrit, hein, est une illustration d'un travail plus théorique, donc de l'historien Eric Hobsbawm, qui a écrit, qui s'est penché, hein, sur les bandits, un livre qui a été publié aux éditions à Gaune, me semble-t-il, Hervé.
Oui, et Les bandits de Hobsbawm, il est intéressant à plusieurs titres. Il est paru en pleine effervescence post-68arde, il est paru en 69, aux États-Unis, je crois, et il a été traduit et publié par François Maspero en 1972, donc à une époque justement de pleine effervescence, de plein bouillonnement politique, critique, de débats intenses, et ça avait ce grand intérêt que ce très important historien, sociologue qu'était Eric Hobsbawm, qui s'inscrivait dans la tradition, je dirais, marxienne, mais pas du tout marxiste orthodoxe, c'est-à-dire se tenant loin des dogmes et des orthodoxies. Hobsbawm, dès 69, consacrait un livre aux bandits sociaux, qui était, en rompant un peu avec une certaine doxa marxiste, qui se tenait loin de tous de ces personnages-là, parce que défini comme ce lumpenprolétariat, ce prolétariat en haillons, dont en gros l'histoire en mouvement n'avait que faire, et donc dédaignant un peu ces partisans de l'illégalisme, considérés comme des asociaux ou des individualistes ou ce qu'on veut. Voilà, et justement dans Hobsbawm, dans ce livre qui reste tout à fait passionnant, hein, que Agone a réédité justement, s'intéresser à ces gens-là. Dès le départ de son essai, il disait que l'on dévalise un transporteur de fonds à un coin de rue, ou que l'on appartienne à une organisation d'insurgés ou de guérilleros qui n'est pas officiellement reconnue, on est considéré par la loi comme un bandit si l'on est membre d'un groupe qui a recours à la violence et pratique le vol à main armée. L'historien et le sociologue ne sauraient se contenter d'une définition aussi sommaire. Et effectivement, l'essai d'Hobsbawm, prenant des bon nombre d'exemples et de thématiques du banditisme social, montrait qu'il y avait là un terrain de liberté, d'émancipation et de revendication tout à fait intéressant, et que ce n'était pas pour rien que nombre de ces bandits au niveau local, international, à travers la planète, étaient devenus des légendes auxquelles
populaires, des légendes populaires.
Voilà.
Le brigand au grand cœur n'est pas au départ un criminel, hein, écrit Hobsbawm. Il commence sa carrière dehors la loi parce qu'il est victime d'une injustice. Et puis aussi, on peut même parler d'une forme de redistribution. C'est pour ça que j'évoquais en préambule le Père Noël. Bon, ce sont aussi des brigands, des bandits qui ont le souci de redistribuer des richesses.
Il y a évidemment ça, et puis il y a aussi le point de vue, et d'ailleurs Hobsbawm le disait, de qui qui gagne dans l'histoire et qui donc l'écrit. N'oublions pas, par exemple, que le groupe Manouchian, enfin, qu'on se souvienne de l'affiche rouge, était considéré comme des terroristes, mais des hors-la-loi aussi, des bandits, enfin, était qualifié de tout cela. Et comme l'écrit Hobsbawm, d'ailleurs, parmi ceux qui ont fait les grandes révolutions sociales dans le monde, combien avaient prévu la véritable issue de leur combat?
Donc, bandits et brigands. Alors, un livre aussi, un beau livre, hein, que comme on dit. Oui. Bon, il y a vraiment un travail, un très beau travail là, de réalisation.
Oui, une belle couverture, ouais, une belle voilà.
Et puis aussi, alors bon,
comme toujours.
Bon, voilà, donc huit nouvelles consacrées à huit héros hein, de ce petit peuple, dont la figure la plus célèbre reste bien entendu Robin des Bois, hein, mais qui n'est pas évoqué dans ce recueil. Mais moi, ce que je trouve vraiment très fort, Hervé, c'est que ce ne sont pas de simples biographies hein, de ces huit bandits. Il y a vraiment des biographies dans un sens encyclopédique. Il y a vraiment un travail littéraire qui est très très intéressant. Et on imagine tout le travail éditorial derrière finalement ce livre. Je sais que tu es bien placé pour le savoir. Tu as dirigé aussi un recueil de nouvelles sur les banlieues noires parisiennes. On sent un gros travail éditorial avec le choix de huit écrivains pour ces huit nouvelles qui vraiment ont investi, je pense, hein, la thématique bandit et brigand en s'inscrivant dans les pas de l'historien Eric Hobsbawm, mais qui ont vraiment apporté aussi un plus littéraire.
Oui, d'ailleurs, ça ramène au projet de Beaujard et de Biagini, c'est-à-dire au départ, ils le disent dans leur préface, qui est assez éclairante d'ailleurs, ils avaient eu l'idée de réactualiser Hobsbawm, mais ils avaient eu l'idée un peu d'une collection, je crois, sur les bandits sociaux, une collection historique donc, hein, qui fut abandonnée parce que, bon, généralement, les bandits sociaux ont été des vaincus de l'histoire, ils ont produit ou localement ou plus universellement du mythe, mais on laissait souvent très peu de traces réelles, le travail d'historien étant donc rendu sinon impossible, en tout cas très difficile. Et puis il y a une chose aussi qu'ils disent qui est sur la période que nous vivons et qui me paraît intéressant. Ils disent: à l'heure où règne dans les esprits le brouillard le plus épais, les risques de confusion entre ces belles figures, les bandits sociaux donc, et celles d'êtres abjects mus par l'appât du gain, la soif de destruction ou l'instinct de domination étaient tels que nous avons préféré renoncer à notre projet de collection. Faisant ainsi, je pense, écho au fait qu'aujourd'hui, on puisse héroïser, par exemple, un Pablo Escobar qui, genre des patrons de la mafia ou d'énormes dealers de drogue, enfin bon, dont évidemment il faut totalement se différencier. On est là très loin des bandits sociaux, quelle que soit la forme qu'a pris leur banditisme. Et donc, à partir du moment où le travail historique n'était pas possible et n'était peut-être pas souhaitable, l'idée était de faire appel à la littérature, à des écrivains, comme tu l'as dit, qui a pratiqué ce que Aragon appelait le mentir vrai, c'est-à-dire en cheminant entre éléments concrets, légendes, la fiction permettait de redonner vie à ces personnages qui ont souvent provoqué l'amour des gens d'en bas et la haine des puissants et qui n'ont pas eu d'historiographe. Alors, effectivement, il y a certainement eu tout un travail d'aller-retour, un choix d'écrivains par rapport à des figures qui leur étaient chères, des figures de bandits, j'entends. Et peut-être aussi d'ailleurs des changements de cap à certains moments, parce que peut-être que on peut supposer que je sais un tout petit peu ce que c'est par rapport comme tu le disais, à l'anthologie sur les banlieues, c'est-à-dire que il a pu y avoir une proposition dans l'esprit des éditeurs de tel brigand, mais qui fut supplantée par l'écrivain choisi, par un autre, parce que il était plus cher à son cœur ou plus voilà. en écho avec ses préoccupations. Et ça donne, comme tu l'as dit, mais je pense que tu vas y revenir, ça donne effectivement une variété de 8 approches très... Et par le choix des brigands, parce que effectivement, si on connaît, il y a eu toute une littérature sur, par exemple, Cartouche. Qu'a choisi Patrick Péchereau.
Le prince des voleurs.
End Huméry, le Kabyle, et je pense sans doute très connu de l'autre côté de la Méditerranée, mais n'est pas connu ici. Et de même pour les Cangaceros, on a certaines images venues du cinéma, notamment. Mais
les bandits brésiliens, les Cangaceros, là on est au Brésil.
Mais donc voilà, il y a des approches de comment saisir le brigand ou la brigande en question. Et donc, il y a le choix de la personne. À chaque fois, aucun texte ne se ressemble. Aucun texte n'est un récit, comme tu disais, linéaire de la vie à la mort de tel ou tel bandit. Et à chaque fois, il y a une intervention, il y a un point de vue de l'écrivain et il y a son style... Si reconnaissable entre de Lindalé à Sébastien Rutès, par exemple.
Tout à fait. Ben justement, Sébastien Rutès, lui qui s'intéresse à Joaquin Murrieta, un bandit mexicain, oui. Vie et mort, entre parenthèses, mort et vie d'un bandit mexicain, qui illustre complètement pour moi cette approche très littéraire, parce que en fin de compte, Sébastien Rutès s'intéresse autant au mythe que représente ce bandit mexicain qui, d'ailleurs, a-t-il existé? Est-il mexicain? Est-il chilien? Et on retrouve bien les questionnements de littéraires de Sébastien Rutès. Alors, on peut citer, on va les citer rapidement, hein, ces 8 bandits, ces 8 auteur. Donc, on commence par le Bush australien avec Ned Kelly, Grandeur et chute des chevaliers. Donc, ça, c'est Émilien Bernard qui signe cette nouvelle.
C'est intéressant avec Ned Kelly comme ouverture, excuse-moi, c'est que par ailleurs, à un moment où on le saisit, il est un peu piégé à l'intérieur, je crois, d'une auberge où où il s'est réfugié. Et il essaye, lui, qui n'est pas cultivé, qui n'a pas appris à écrire tout ça, mais il essaye une fois de plus de dicter ses mémoires parce qu'il aimerait qu'on garde de lui une autre image que celle évidemment véhiculée par ceux qui le traquent. Et il fait la dictée à quelqu'un dans l'auberge, et une fois de plus, cette mémoire va être récupérée par l'ennemi et il n'arrive pas à laisser sa trace, quoi. Et ça, et évidemment, la trace restera par la légende, mais c'est une belle métaphore.
Tu as raison, on commence vraiment justement avec cette interrogation. Ensuite, donc, c'est Rob Roy MacGregor, brigand des Highlands. Donc là, c'est en Écosse, à la fin Rob Roy est né en 1671, il est mort en 1734, et c'est signé par Thomas Giraud. Ensuite, tu l'as déjà évoqué, Sarah Haidar signe, une nouvelle consacrée à Ned Huméry, l'insoumis Kabyle. Lindalé donc nous emmène en Inde autour de Pulan Devi, une vie violente, et là c'est aussi quelqu'un dont on a entendu parler. C'est une histoire
qu'on appelait la reine des bandits.
Voilà. Qui a même été fini député avant d'être assassiné.
Complètement.
Donc un sacré parcours.
Avant d'être assassiné, qui fut aussi qui était d'une caste, des gens d'en dessous en Inde, qui a été très jeune, kidnappé, violé, enfin qui a. Et Lindalé fait un fait pour elle un plaidoyer de féministe, enfin de lui restitue vraiment une belle identité au-delà du banditisme, voilà.
Donc Cartouche, tu l'as dit, le prince des voleurs, c'est Patrick Pécherot que l'on connaît bien ici, qui nous entraîne sur ses traces. Serge Guattrupin, oui, vas-y.
On aime quand même beaucoup bien, enfin beaucoup. Je ne parle pas bien. Ce qu'on aime beaucoup, je crois, tous les deux avec Patrick Pécherot, et là il réussit une fois de plus cette prouesse, c'est qu'il a pris Cartouche sur lequel il y a, contrairement à d'autres qu'on vient de citer, il y a une très grande littérature qui existe. Et en même temps, eh bien, à la manière de Patrick Pécherot, entre les allers-retours, entre le passé et le présent, entre ce que Cartouche évoque pour lui, il réussit ce travail de mémoire sociale où il excelle. Se souvienne de l'homme à la carabine, par exemple, autour du membre le plus jeune de la bande à Bono. Enfin voilà, il fait cette espèce de jeu littéraire qui apporte une grande authenticité et justement une réflexion sur la mémoire aussi.
Ensuite, quelqu'un qu'on connaît bien aussi, Variation Noire, Serge Quadrupani, lui consacre sa nouvelle à Sante Notar Nicola, l'enfant de l'atelier, en étant en Italie. Alors, quand on préparait cette émission, Hervé, on évoquait le sommaire de nos deux précédentes Variations Noires consacrées à Cesare Battisti, à l'Italie, et puis aussi à Harry des Louvres. D'anciens militants politiques révolutionnaires italiens. Il faut savoir que Sante Notar Nicola était le premier sur la liste que les Brigades Rouges avaient fournie aux autorités italiennes de prisonniers politiques dont ils souhaitaient la libération en échange de celle d'Aldo Moro.
Oui, complètement. Et par ailleurs, Sante Notar Nicola a été... il le raconte d'ailleurs dans un livre qui a peut-être été republié, que moi j'avais lu il y a très longtemps, qui s'appelle La révolte à perpétuité, je crois. Et il a été arrêté en 1968, en fait
avant la période des années révolutionnaires italiennes.
Voilà,
oui, tout à fait.
Révolutionnaires qui commence en 69 et il va être emprisonné jusqu'en 2000, je crois.
Oui.
Et il a été une figure en Italie du combat contre le système carcéral. Mmh. Et voilà, et effectivement. Quadrupani restitue, qui connaît bien l'Italie, qui est par ailleurs un traducteur, en plus d'être romancier, qui est quand même aussi qui a un peu bâti la bibliothèque italienne de Anne-Marie Métellier, qui est un traducteur de très grands auteurs de noir et pas uniquement italiens. Il restitue la personne de Sante Notar Nicola, là, qui n'est pas très connue ici.
Voilà, et puis donc nous avons déjà cité Joaquin Murrieta, là c'est Sébastien Rutès, et puis Maria Bonita, donc fragment d'une légende, effectivement les bandits au Brésil par Jean-Luc Saint-Girand. Donc bandits et brigands, on dit parfois que le roman noir est le roman du criminel, on dit aussi que le roman noir est le roman du témoignage social. Ben ici nous avons 8 nouvelles consacrées aux criminels sociaux.
Oui, tout à fait. Et puis une preuve faite à nouveau que la littérature est aussi un terrain de résistance sociale, politique, en mettant toujours la littérature évidemment au premier plan. Et puis à la fin du texte de Sarah Haidar qui fait revivre le fantôme du Kabyle Ndoumeri, abattu par la police française en 1947. Il y a ces mots, « Vous grimperez ensuite ces collines et vous fondrez sur ces palais et ces tours de contrôle. Nous voulions jadis échapper à la faim. Aujourd'hui, nous ne nous suffirons plus de la satiété. » Voilà qui est un assez beau programme.
Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre Charron, Il est 2h du mat, le braquage a foiré. J'ai une balle dans le ventre, une autre dans le poumon. J'ai vécu à Sarcelles, je crève aux Champs-Élysées. Je vois la France entière du fond de mes ténèbres. Les charognards sont là, la mort ne vient pas seule. J'ai la connerie humaine comme oraison funèbre. Le regard des curieux communique linceul. C'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud. On portera pas le deuil, c'est bien fait pour ta peau. Le boulanger du coin a quitté ses fourneaux pour s'en venir cracher sur mon corps déjà froid. Il dit, je suis pas raciste, mais quand même les bicots, chaque fois qu'il y a un sale coup, ben il faut qu'ils en soient. Moi monsieur, je vous signale que j'ai fait l'Indochine, dit un ancien para à quelques arrivistes. Ces mecs c'est de la racaille, c'est pire que les Viet Minh. Faut les descendre d'abord et discuter ensuite. C'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud. On portera pas le deuil, c'est bien fait pour ta peau. Les zonards qui sont là vont se faire lyncher sûrement s'ils continuent à dire que les flics assassinent, qu'on est un être humain, même si on est truand, et que ma mise à mort n'a rien de légitime. Et s'ils prenaient ta mère comme otage ou ton frère, dit un père béret basque à un jeune blouson de cuir. Et si c'était ton fils qui était couché par terre, le nez dans sa misère, répond le jeune pour finir. C'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud. On portera pas le deuil, c'est bien fait pour ta peau. Et monsieur Blancassis continue son délire, convaincu que déjà mon âme est chez le diable, que ma mort fut trop douce, que je méritais pire. J'espère bien qu'en enfer je retrouverai ces minables. Je suis pas un héros, j'ai eu ce que je méritais. Je ne suis pas à plaindre, j'ai presque de la chance. Quand je pense à mon pote qui lui n'est que blessé et va finir ses jours à l'ombre d'une potence. C'est bien fait pour sa gueule, ce n'est qu'un petit salaud. On portera pas le deuil, c'est bien fait pour sa peau. Elle n'a pas 17 ans, cette fille qui pleure en pensant qu'à ses pieds il y a un homme mort. Qu'il soit flic ou truand, elle s'en fout sa pudeur. Comme ces quelques larmes me réchauffent le corps. Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre-Charron. Il est 2h du mat, mon sang coule au ruisseau. C'est le sang d'un voyou qui rêvait de millions. J'ai des millions d'étoiles au fond de mon caveau. J'ai des millions d'étoiles au fond de mon caveau.
Vous écoutez Radio PFM Variation en noir, les charognards.
Très belle illustration d'un Renaud qui est celui dont il faudra se souvenir avant qu'il ne raconte les bêtises actuelles.
Voilà. c'est vrai que cette chanson, je l'ai entendue par hasard il y a peu et je me suis dit vraiment quelle puissance évocatrice et qui colle complètement avec notre thématique. Alors j'aurais pu aussi choisir Johnny Cash, Sam Hall qui est évoqué par Patrick Pécherot dans un nouveau dans une nouvelle hein, consacrée à dans sa nouvelle consacrée à Cartouche, mais on se le réserve peut-être pour nous quitter, Hervé. Alors rapidement.
Je sens que le temps nous est compté.
Nous voulions quand même évoquer, c'est la période de fin d'année de fête, et une petite idée de cadeau avec le dictionnaire amoureux du polar de Pierre Lemaître. Alors on va pas présenter Pierre Lemaître,
Ce qui fait plaisir, c'est qu'on sait que parce qu'on dit souvent ils ont commencé avec des romans noirs, des polars, le cas de Jean Vautrin, de Pierre Lemaître, y compris plus récemment de notre cher Nicolas Mathieu aussi. C'était en fait pour aller vers la blanche, vers la réussite, vers patati patata. Parce qu'effectivement, Pierre Lemaître, il s'était fait remarquer par Robe de mariée, Alex, etc., des polars. Il a obtenu le Goncourt pour le premier volume d'une trilogie, c'est Au revoir là-haut. Ce qui fait plaisir justement, c'est que comme d'ailleurs les deux autres qu'on a cités de manière différente, aucun d'entre eux n'a jamais abandonné son amour du roman noir, et ça fait très plaisir que Pierre Lemaître, auréolé de cette gloire du Goncourt, consacre un dictionnaire amoureux au polar. Justement.
Tout à fait. Alors, on n'en dira qu'un mot, puisqu'il y a une entrée consacrée à Serge Quadrupani, Hervé, dans ce dictionnaire.
Oui, il y a une... ce que dit d'entrée de jeu Pierre Lemaître, c'est que ce dictionnaire n'est rien d'autre qu'une photographie de ses goûts, de mes goûts en la matière à un moment donné. Or, il se trouve que, peut-être un peu sur le tard, un jour, il y a un festival à Toulouse, Polar du Sud, je crois, il a rencontré Serge Quadrupani. Il a d'abord fait le rapport avec le traducteur de romans italiens que lui, le maître, avait beaucoup, beaucoup aimé. Et puis, il a découvert le romancier, la trilogie qui avait débuté chez Métellier dans les années 90 avec son détective Émile Krachevski, et puis il a découvert Saturne, il a découvert d'autres romans, il consacre plusieurs pages à Quadrupani, et il met Quadrupani affectionne les sujets vastes aux ramifications complexes qui toujours conduisent au cœur de sa dénonciation permanente du capitalisme et de son bras armé, le libéralisme. On suit toujours avec intérêt ses analyses et ses coups de gueule.
Voilà, donc un dictionnaire amoureux, donc aux éditions Plon, où il est beaucoup question finalement d'auteurs et de lecture de Pierre Lemaître.
Ce sont comme il le dit avec passion à la fois et modestie en préambule, Pierre Lemaître ne fait pas un œuvre d'historien ou d'encyclopédiste comme un Claude Mesplède, par exemple, mais il reprend l'exergue de Roland Barthes au fragment d'un discours amoureux, je crois. Il dit « c'est donc un amoureux qui parle et qui dit ». Il va y avoir, en alphabétique, une foule d'entrées par auteur ou par roman qui ont marqué Pierre Lemaître. Et on va y découvrir des incontournables comme Denis Lehane, mais aussi des gens que je sais, toi et moi, apprécions et avons chroniqué ici, comme Yves Ravet. Et voilà, et c'est tout un plaisir de parcourir ce genre de dictionnaire qui donne... Qui est évidemment une idée de cadeau, mais qui donne aussi des tonnes d'idées de lecture.
Voilà, des idées de cadeau avec un X à cadeau, finalement.
Oui, voilà.
Et donc, il y a aussi question de d'Elroy, hein, bien entendu, ce qui nous permet de faire le lien avec Jax Miller, Hervé, qui signe un livre, je ne vais pas dire un roman, un livre, Les Lumières de l'Homme. Alors, quel lien avec... Elroy, c'est que ben, elle s'attache à relater, à quasiment mener une enquête autour d'un fait divers qui a réellement bien sûr existé, quelque chose de très infâme pour prendre le titre de son premier roman, tel que qu'a pu le faire Elroy, Hervé.
Oui, Jacques Miller, on l'avait découvert avec effectivement, comme tu l'as dit, avec un premier roman, Les Infâmes, il y a quelques années, je crois, qui mettait en scène un personnage, enfin une espèce de road story, un personnage de femme, comment dire, bousculée, abîmée, Freedom Oliver, mais toujours debout et c'était le récit de son épopée, voilà, avec on croisait des paumés magnifiques, des flics corrompus, des dégénérés, des fanatiques religieux, des fachos, bon, dans cette odyssée qu'étaient les infâmes. Et là, il y avait eu après Candyland, et puis là, avec Les Lumières de l'Aube, elle se situe dans une tradition très américaine au départ, qui est celle, alors je vais mal prononcer cela, mais qui est celle qu'on appelle, je crois, la narrative non-fiction, ce qui est
très bien prononcé
en français, mais qui a été inauguré par un livre culte qui est le 200 froids de Truman Capote, où Capote avait commencé ça, je crois, à la fin des années 50, et ça a paru au début des années 60. Il avait fait une enquête sur un crime bien réel, et il disait, il me semblait que l'on pouvait tirer du journalisme, du reportage, une forme d'art nouvelle et sérieuse, ce que j'appelais en mon fort intérieur le roman vérité, précisant qu'il s'agissait d'une forme narrative qui utilisait les techniques de l'art de la fiction, tout en restant on ne peut plus proche des faits. Et bon, il y a évidemment eu Truman Capote, il y a eu Norman Mailer avec Le Chant du Bourreau. Tu parlais de James Ellroy avec l'affaire de la mort de Elizabeth Short, ce qui a donné le roman Le Dahlia Noir. Et puis après un roman où là Ellroy mettait en scène sa propre histoire, celle de sa mère assassinée, qui était Ma Part d'Ombre. Et puis plus proche de nous, et je crois qu'on en avait parlé il y a quelques années sur cette antenne, aussi les livres chez Alia de David Gran, par exemple,
oui.
Le Caméléon ou Trial by Fire, où là aussi il y avait David Gran mettait une immense qualité littéraire au service de reportages sur des personnes et des faits réels et dans de courts livres tout à fait captivants. Et donc Jacques Miller avec Les Lumières de l'Aube est à mon avis dans cette tradition là.
Mais alors ici il n'est pas question de brigands au grand cœur, Hervé, hein, on est vraiment dans l'extrêmement violent, glauque, dans un coin paumé des États-Unis, Oklahoma, enfin limite de l'Oklahoma, du Kansas, de l'Arkansas. C'est un fait divers vraiment glauque.
Dans les plaines, dans les prairies, oui, effectivement. Et...
Un couple qui est retrouvé carbonisé dans un mobil-home, était incendié, couple est tué d'une balle dans la tête. Et ce couple avait une fille qui fêtait ses 17 ans. On est le 30 décembre 1999, hein, juste au moment du basculement vers le changement de siècle, et qui recevait une amie venue fêter cet anniversaire. Et ces deux jeunes filles ont disparu et n'ont jamais été retrouvées. Ce crime n'a jamais été élucidé. Et donc Jacques Miller reprend un peu l'enquête et c'est surprenant, quoi, tout l'amateurisme des enquêteurs, des policiers, et
voilà,
vraiment un contexte sordide.
Délibéré, enfin, il y a effectivement Oui, tout à fait, ça c'est passionnant. Elle remonte, voilà, je pense qu'elle a enquêté pendant des années, elle a rencontré aussi bien les familles des victimes, des témoins ou des gens qui auraient pu l'être, des flics honnêtes et des corrompus. Enfin, il y a une quête quasi obsessionnelle.
Oui, et d'ailleurs, elle s'implique personnellement dans cette histoire. Il lui arrive d'être menacée, et bon, c'est aussi un lieu où sévit le trafic de drogue, mais on est vraiment dans la déchéance sociale, hein, dans un contexte très très,
ah oui,
très stressant.
Complètement, parce qu'il y a notamment il y a un premier grand volet du livre évoque la piste à laquelle croit la famille Freeman, c'est-à-dire celle d'un complot policier, pour le dire comme ça. Et puis il y a une autre piste qui est celle de la drogue, il faut voir que dans ce, un peu au nord de cet endroit où ont eu lieu les crimes et kidnappings, Welsh, il y a entre cette frontière, entre Oklahoma et Kansas, je crois, il y a une ancienne région qui fut une très grande région minière et qui est totalement désaffectée, qui en plus est un enfer à ciel ouvert quand même, hein, très très pollué, et on fleurit là pour survivre les laboratoires de méthamphétamine,
c'est ça,
qui est quand même les labos du pauvre, hein, et d'une Amérique totalement laissée pour compte. Et évidemment, une autre piste, est autour de cela, on n'en dira pas plus, mais bien sûr, ce qui veut dire que Jacques Miller a aussi conduit là une enquête à haut risque quand même. C'est-à-dire le moins grave qui a pu lui arriver est que des personnages lui ferment leur compte Facebook, mais il y a eu des moments beaucoup plus durs. Mais comme tu le disais, ce qui est fait aussi la grande force de ce roman, enfin oui, disons ce roman, parce que c'en est un, c'est complètement passionnant, c'est aussi c'est de relater ce fait divers criminel avec une part d'intime aussi puissante. Ça, je trouve que c'est vraiment c'est très fort. Il y a par exemple à un moment vers un peu plus du milieu du récit, elle est 2 ans après l'incendie. Et elle est sur le territoire hors la loi, justement, de ces laboratoires de méthamphétamine. Et elle écrit: « Mes phares se reflètent dans les yeux d'animaux qui appartiennent désormais aux ombres d'assassins imaginaires. L'angoisse est une décharge brûlante qui remonte dans ma cage thoracique comme si le diable léchait mon sternum. J'éteins la musique et baisse les vitres de la voiture pour écouter le vent chaud dehors, ne détachant pas les yeux de la route lorsque je passe devant des repères de junkies. Mon rythme cardiaque n'est qu'un démon sur mon épaule qui frappe des talons contre mes côtes. Mais je transforme mon passé en bouclier pour rencontrer les accros à la meth là où ils sont. Je parle leur langue, je connais leur douleur. Contrairement aux filles disparues, ce sont des gens que je comprends. »
Oui, tout à fait. Alors, et puis aussi, une dernière chose, Hervé, peut-être, c'est justement le portrait, l'engagement de la mère d'une des deux disparues, Lorraine, qui est dont l'objectif, en fin de compte, n'est pas de se faire justice. Elle veut juste savoir, comprendre, que soit peut-être rendue la justice. C'est aussi ce qui fait la force, je pense, de cette enquête, de cette quête, Hervé.
Oui, comme tu dis, elle n'est pas ni dans la mère de la fille disparue, elle n'est pas dans la la lamentation, ni dans le désir de vengeance, mais elle cherche 20 ans après, elle cherche sa fille, elle cherche ce que sont devenues les deux jeunes filles, et c'est une espèce de quête qui va trouver un écho avec la plume de Jacques Miller, et ce personnage de la mère est aussi un très beau personnage de femme debout, qui qui ne se laisse impressionner par rien ni personne et qui va y compris développer des tas de moyens là où la police et la justice se révèlent incapables de faire la lumière.
Wanted man in California, wanted man in Buffalo, wanted man in Kansas City, wanted man in Ohio, wanted man in Mississippi, wanted man in old Cheyenne. Wherever you might look tonight, you might see this wanted man. I might be in Colorado.
C'était Variation Noire dans Variation, le dernier vendredi du mois. Nous avons parlé aujourd'hui de Bandits et Brigands aux éditions L'Échappée, du Dictionnaire amoureux de Pierre Lemaître aux éditions Plomb, et des Lumières, les Lumières de l'Aube de Jack Miller aux éditions Plomb. Variation en noir, une émission de Radio PFM réalisée en collaboration avec 813, l'Association des Amis des Littératures Policières, en particulier donc avec Hervé Delouche. Bonne lecture en noir à toutes et à tous. Hervé, au revoir.
Voilà, bonne fête quoi qu'il en soit, à l'année prochaine et à l'année prochaine à toutes et à tous.
Voilà, merci.
Pour de nouvelles découvertes.
Voilà, rendez-vous l'année prochaine, Hervé.